ne croient pas aux coïncidences. Ils en ont entendu parler, mais ils n'en ont jamais vu.
Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 27 novembre. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Nous sommes les deux occupants de ce studio puisque Marine n'est pas là, mais elle sera tout de même là puisqu'elle a préparé une interview de l'équipe de La Marche, film qui sort aujourd'hui, film commémoratif. Et puis toi, tu vas nous parler d'un film, d'un thriller hollandais.
Borgman, hein, et le retour en fait d'un cinéaste un peu oublié, Alex van Warmerdam. Voilà.
Oh, tu as fait un petit effort, c'est bien de prononciation. On parlera aussi d'Hunger Game, puisqu'on l'a vu en avant-première, c'était lundi au Comédie, et s'il vous plaît, en VO sous-titré, il sort aujourd'hui. Et puis nous avons aussi une invitée par téléphone, c'est Caroline Barrault de l'association Brand à Part qui fait 3 soirées thématiques autour du téléphone, le téléphone à l'intérieur du cinéma, et ce sera à la Panacée.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Un cinéaste remarqué à l'orée des années 90 avec une série de films décalés et absurdes, hein, notamment Abel et la robe, empreint d'une maîtrise formelle typiquement nordique entre froideur calculée et dérapage narratif, Alex van Warmerdam n'a plus vraiment donné de nouvelles depuis la sortie en 1998 du Petit Tony. Ses derniers films n'ont pas été distribués en France et ne jouissent pas d'une très bonne réputation, hein, à l'instar d'un Hal Hartley. Autre figure importante du cinéma indépendant du siècle dernier, hein, mais bon, new-yorkais pour le coup, il est retourné un certain anonymat au point que la sélection de son nouveau film à Cannes en étonna plus d'un, si l'on en juge l'accueil plutôt glacial qu'il reçut au sein du festival. Or, Borgman, son nouveau film, donc, est une excellente surprise, un film ludique et intelligent qui déjoue habilement toutes nos attentes au fur et à mesure que le récit dévoile ses enjeux. Soit l'histoire d'un SDF, c'est ce qu'on croit au départ, hein, qui s'immisce progressivement dans une famille très aisée vivant dans une villa cossue à l'architecture un peu post-moderne, hein, comme dans une version contemporaine du théorème de Pasolini. On s'attend d'ailleurs à une farce cynique, hein, contre une bourgeoisie suffisante. Or, plutôt que de jouer la carte de la métaphore, de la charge sociale, Van Warmerdam nous compte autre chose. Hein. Borgman n'est pas vraiment un clochard, puisque Borgman, c'est le nom du personnage principal, mais un personnage énigmatique et magnétique qui exerce une fascination étrange, hein, sur la mère de famille et sur les enfants. Il promène sa silhouette dans la maison, tel un fantôme invisible, se déplace de pièce en pièce avec une agilité proche de l'abstraction. Il raconte tous les soirs des histoires aux enfants le soir, oui, et se met en position accroupie près de la mère à chaque fois qu'elle s'endort. Enfin, c'est une sorte de personnage un peu comme ça.
Presque un ange. Hein,
presque un spectre fantomatique. Ouais. Hein. Et surtout, il n'est pas isolé. Hein. Il possède un portable. À un moment donné, il sort son portable, ce qui rend le film intriguant, et travaille en réseau avec d'autres hurluberlus étranges et limite flippants. Alors, que veulent-ils? Pourquoi commettent-ils froidement aussi tous ces meurtres, qui obéissent d'ailleurs à des dispositifs curieux? Borgman a l'air d'être le cerveau, le maître à penser d'une sorte de secte aux objectifs indéfinis. Il parle peu, semble indifférent à toute forme d'émotion, mais fait preuve en même temps de compassion, notamment envers les enfants, ce qui est un peu paradoxal. Voilà, il obéit à un programme précis, quasi chirurgical, à l'image de ces séquences d'opérations médicales exercées dans le dos des membres de la famille. À coups de scalpel, ils vont recoudre la peau, enfin, c'est assez bizarre. Voilà, plusieurs hypothèses nous traversent l'esprit, mais l'idée selon laquelle ces envahisseurs détruisent une famille par pure perversité ou vengeance idéologique semble un peu caduque. Même si le père de famille, incarnation du parvenu friqué, macho et raciste, mérite un peu ce qui lui arrive. Le film s'ouvre d'ailleurs par une fausse, je crois que c'est une phrase biblique, mais apparemment ça n'existe pas dans la Bible. Ils descendent sur terre pour grossir leur rang. Donc cette phrase un peu prophétique, pas vraiment à prendre au sérieux, indique néanmoins l'une des directions prises par le film, celle d'un cinéma onirique et fantastique nourri des contes nordiques. On pense parfois au fameux conte « Le joueur de flûte » de Hamelin. Voilà, Borgman et ses fidèles comparses veulent s'emparer des enfants. Pourquoi ? Pour les sauver, pour les rallier à leur cause, une cause d'ailleurs indéfinie. Le film se termine d'ailleurs par un plan splendide, une poésie aussi sombre qu'insolite, qui confirme cette impression. Voilà, malgré la noirceur du propos, la violence quand même dégagée par la situation et surtout une angoisse qui contamine progressivement le récit, Borgman baigne dans un climat empreint de douceur et de légèreté, ce qui n'est pas le moindre paradoxe de ce conte cruel. L'humour particulier du cinéaste est toujours présent, ce qui a tenu l'horreur de certaines situations. La mise en scène, moins théâtrale et étouffante que dans ses longs métrages précédents, laisse davantage de respiration, elle est plus ample et moins artificielle. Voilà, la précision des cadrages et les impeccables travelling latéraux permettent aussi d'appréhender l'intérieur d'une maison un peu labyrinthique dont on perd jamais les repères spatiaux. C'est la beauté formelle donc du film n'étouffe pas le récit, apporte une distance, un contrepoint quand même nécessaire au côté horrifique de cette histoire aussi singulière qu'effrayante. Voilà. Et puis, ça va un ovni hein, dans le paysage cinématographique, porté par un acteur exceptionnel, hein, Jan Bijouet. Je ne sais pas comment on prononce en hollandais. Alors, j'irai Jan Bijouet. Qui incarne donc le personnage éponyme avec une espèce d'impassibilité assez inquiétante. Voilà, bon, bah, je conseille vraiment ce film et qui est constamment surprenant. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer dans les 5 minutes à suivre. Enfin, c'est étonnant.
Bonne surprise, donc, et un retour pour ce réalisateur voilà, que tu as comparé à Al Hartley. Alors. Pour son côté en
mais parce que c'est plutôt
nouvelle vague hollandaise ou...
Peut-être, un côté aussi très, par ce côté burlesque des situations, ces récits assez minimalistes aussi. Et puis c'était typique un peu d'un certain... Enfin moi je voyais ça comme ça dans les années fin 80, début 90, d'un certain cinéma un peu d'auteur effectivement, qui font référence à, bon, parfois à la nouvelle vague, hein, ce qui est moins le cas de Van der Meer. Et puis, c'était des cinéastes qui étaient très appréciés aussi à cette époque et qu'on a oublié, hein, étrangement.
Et qui reviennent. Donc, ce sera au Diagonale pour voir ce film, Borgman.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Hunger Games, sorti en 2012, avait été une bonne surprise dans la flopée des films de studio sortis à cette époque. Gary Ross, alors réalisateur, avait montré le chemin d'une adaptation réussie de cette série écrite par la devenue millionnaire Suzanne Collins, une série de science-fiction politico-sentimentale qui cartonne chez les adolescents et jeunes adultes. Alors, dans le premier film, on avait fait la connaissance d'un monde à peine crédible, partagé entre des districts peuplés de gueux, condamnés à la mine, et le Capitole, une opulente capitale ultra-technologique. Le ressort d'Hunger Games est le suivant, hein, donc l'insolente capitale de la nation de Panem oblige chacun de ses 12 districts à envoyer un garçon et une fille, donc qu'on appelle les tribus, concourir au Hunger Games, un jeu ultra-violent transformé en divertissement télévisuel où il ne doit rester qu'un vainqueur ou, comme le dit un des personnages, eh bien plutôt un survivant. Dans le premier épisode d'Hunger Games, la fragile mais combative Katniss avait remporté la 74e édition avec son partenaire Peeta. Ils avaient joué la carte de l'amour, même s'il était fin cet amour, et avaient gagné le droit de revenir paisiblement dans leur district en amoureux. Et le monde était encore pourri, hein, mais l'amour avait ému et c'était déjà ça. Le deuxième volet d'Hunger Games, baptisé L'Embrasement, donc qui sort aujourd'hui, promettait de dénouer au moins deux fils. Ce faux couple allait-il tenir, sachant que la farouche Katniss était proche d'un autre garçon? Et la nation de Panem allait-elle continuer à préserver les inégalités criantes? Il y avait au moins deux questions. Il y en avait plus, hein, enfin, mais il y en avait au moins deux. Alors, le deuxième volet répond effectivement à ces deux questions, mais partiellement. Alors, si l'univers du premier opus est repris hein, dans cette nouvelle histoire, on peut aussi regretter que l'installation dans le monde de Panem soit aussi lente, voire plus lente qu'auparavant. Les amourettes de Katniss, ces tiraillements, consument la première partie du temps. Et la deuxième est une critique de la politique et de la propagande, puisque nos deux gagnants sont utilisés par le pouvoir pour museler les foules ou, dans le pire des cas, les faire penser à autre chose que leur triste sort.
Elle était pourtant simple, votre tâche.
J'ai jamais voulu faire tuer quelqu'un, il doit le savoir.
Mais de quoi tu parles? Qui doit le savoir?
Snow, il est venu me trouver. Il s'inquiète à propos des rébellions dans les districts et il dit que les gens ne croient pas assez à notre histoire.
Tu aurais dû me le dire avant que j'offre de l'argent à ces pauvres
Désolée,
gens.
Désolée, je savais pas quoi faire.
Mais à quoi est-ce que t'as pensé?
Emmett, s'il vous plaît, aidez-moi à supporter cette tournée. S'il vous plaît, aidez-nous à nous en sortir.
Une tournée? Mais réveille-toi, ma fille. Ça finira pas en rentrant chez vous, car jamais vous descendrez de ce train. Vous êtes des mentors à présent. Ça veut dire que chaque année, on vous sortira des oubliettes et on filmera tous les détails de votre histoire d'amour.
La télé-réalité au service de la politique, il fallait y penser. Ainsi, Hunger Games fait coup double. Il met en garde contre les dérives du pouvoir et aussi contre la télévision, outil de propagande et entreprise à décerveler. Alors, vu l'intérêt des ados pour la série, on se demande s'ils ne vont pas s'éloigner des téléviseurs et s'ils ne vont pas prendre leur carte dans un parti trotskiste. Mais non, après tout, ce n'est qu'un film et on ne peut pas dire d'ailleurs que Suzanne Collins fasse dans la subtilité. Le personnage du président, joué par Donald Sutherland, est un peu figé. En revanche, on s'amuse de voir David Seymour Hoffman en nouveau juge des jeux sanguinaires, un acteur capable de changer avec subtilité la dimension de son personnage en quelques instants. La troisième partie d'Hunger Games que tout le monde attend est évidemment le jeu et on attend d'autant plus que cette partie se fait nettement désirer.
C'est la 75e année des Hunger Games. Les tribus seront moissonnées parmi les précédents vainqueurs.
Katniss, laissez-moi lui dire au revoir. Katniss !
On ne peut rien dévoiler de ce qui s'y passe, mais comme la bande-annonce l'indique, les participants sont donc d'anciens gagnants, ce qui est bougrement injuste. Comment notre héroïne Katniss va-t-elle prendre la chose? Comment va-t-elle pouvoir survivre? C'est tout l'intérêt de la dernière partie de l'embrasement. Alors dans l'arène qui est une forêt tropicale, l'homme est un loup pour l'homme, mais il y a toujours des alliances de circonstances. Alors on s'attache à quelques personnages qu'on nous avait brièvement présentés, et ensuite il s'agit de savoir qui va mourir et dans quel ordre. Le twist final résume bien l'ambiance de ce deuxième opus qui prépare deux autres métrage, en espérant que la suite qu'on nous réserve permette quelques audaces, car pour ce coup, c'est un peu raté avec une mise en scène classique sans éclat. On montre un peu ce qu'on a à nous montrer. Alors, c'est pas forcément gênant pour les parties avec les effets spéciaux, mais justement, Hunger Games avait d'autres arguments. Voilà, Manu, viens rapidement, toi, ce que t'en as pensé.
La mise en place, c'est quand même, j'ai trouvé qu'elle était laborieuse, et même si on sent chez le réalisateur une volonté de critiquer donc la société du spectacle, la peopleisation, tout ça, il y a un côté comme ça un petit peu subversif pour un film pour ados, et ça doit être présent dans le roman, je suppose. Apparemment, c'est très fidèle, et les commentaires, les critiques que j'ai lues sont plus positifs que pour le premier, étrangement.
Ah.
Oui. Alors que moi, la mise en place me semble laborieuse, et puis la deuxième partie, qu'on attend quand même avec impatience, je le trouve plutôt décevante. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus agressif.
Le jeu, tu veux dire?
Le jeu.
Ah, là, moi, j'ai appelé ça la troisième partie quand même.
La troisième partie, d'accord.
Pour moi, il y a la présentation du monde, ensuite il y a la critique du spectacle, et ensuite il y a le Hunger Games. Mais
et
voilà.
Puis le film ne finit pas aussi.
Ah, oui. Bah oui, ça annonce les deux prochains épisodes qui sont prévus, donc l'année prochaine et puis l'année suivante. Voilà. On passe à la marche.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
La marche, c'est un film de Nadir Ben Yadir, avec Olivier Gourmet, Toufik Jalab, qui avait déjà joué dans Né quelque part, et puis Vincent Rottier, puis Jamel Debbouze, qu'ils ont mis sur l'affiche parce que c'est très vendeur. Donc c'était en 83, dans une France en proie à l'intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme, une marche de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d'espoir à la manière de Gandhi et de Martin Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous horizons et donneront à la France son nouveau visage. Marine a rencontré Nadine Ben Yadir, le réalisateur, et puis des comédiens dont Nader Boussandel et Toufik Jalab, c'était au Cinémède.
On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé.
Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait.
C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité.
C'était il y a un peu plus de 2 ans, grâce à la rencontre que j'ai faite avec Nadia Lagdar, qui est la personne avec qui j'ai écrit le film, qui avait ce projet depuis un petit temps dans ses tiroirs, qu'elle n'arrivait pas à monter, que ce projet était vraiment dans un tiroir à la limite fermé à clé, parce que ça faisait un petit temps. Et puis c'est Nader Boussandel, qui avait joué dans mon premier film, au rôle principal, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu rencontres Nadia. Elle a un projet d'une histoire vraie assez hallucinante. Je ne connaissais pas, moi, l'histoire. Je connaissais la fin. D'ailleurs, je connaissais le rassemblement de 100 000 personnes. J'avais l'idée de la marche des beurs, j'avais SOS, j'avais tout ça. Et quand au fur et à mesure, avec Nadia, elle m'a raconté la véritable histoire, que ça venait des Minguettes, que ça partait de ces jeunes qui, après une bavure, s'étaient inspirés de Gandhi pour répondre face à la violence avec la non-violence. J'ai dit qu'il fallait absolument qu'on raconte cette histoire. Donc on a tout recommencé, on a gardé la grande histoire, l'histoire vraie, la bavure, l'arrivée à Paris, Lyon, les images d'archives, le curé, etc. Et puis on a reconstruit ensemble les petites histoires.
Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça?
Faut bien qu'il paye pour ce qu'il t'a fait.
J'ai compris.
Mohamed!
Après,
Tu me butes ?
Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed.
D'accord, tu veux me venger ? Tu as buté tous les racistes de France ?
Bah, s'il faut, ouais.
Bah, t'as du boulot.
Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut changer, même s'il reste encore beaucoup de travail, mais il y a aussi, au-delà de la carte de séjour, c'est un thème à aborder. C'est assez catastrophique ce qui s'est passé cette année de 83. C'est la circonstance aggravante pour crime raciste. Faut savoir qu'à l'époque, quand on voulait un poste radio, on prenait plus de prison que si on tirait sur un jeune résident de cité. Je crois que l'hécatombe a été très forte en 83. Il y a quelque chose comme 285 victimes de crimes racistes. Alors si on fait le calcul, ça fait à peu près un par jour, si c'est pas deux. Donc voilà, c'est ça en fait le truc qui a soulevé cette indignation.
Ça. Je pense qu'ils ont, comme il dit, je crois qu'ils ont envie de remarcher, quoi. C'est ce qu'ils nous ont dit, Jérôme Toumi. Il se dit qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement qui renaît un peu pour répondre un peu à la montée du Front National qui était à l'époque, et au-delà de la montée du Front National, de la montée des propos, certains propos qui frôlent ou qui touchent le racisme avec des gens qui sont élus dans des partis démocratiques. C'est-à-dire les propos racistes, ils sont beaucoup. Avant, le mec, il criait, maintenant, il parle.
Nous allons traverser 55 villes.
Ah, bienvenue !
Parcourir 1200 kilomètres.
Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux, hein, je suis même tout seul.
Tu marches, Farid ?
Non.
Farid, s'il te plaît.
Moi, je suis là, il pleut, ils sont plus mes pieds !
Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein !
C'est pas statique, mais Philippe, des gens, tout le temps qui marchent, ça risque. Après, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, ou alors rien du tout.
Il se passait des rencontres.
Exactement, mais pas tout le temps. Et c'est ça qui, voilà, c'est se reposer la question. Et donc, la caméra 35 mm, j'avais envie, c'est un... J'ai tourné mon premier film, mon deuxième, je voulais tourner en 35, j'étais limite de l'OVNI, en me disant, mais non, c'est en numérique, tout le monde tourne en numérique. Je sais que le troisième, je serais en train de prendre pour un dingue, mais...
Non, mais la contrainte vous a été utile, en fait.
Ah, mais c'était ça, c'était la réponse, en disant que 10 personnages, on a des grands acteurs avec nous, et tout le monde était conscient que... Et ça, ce qui était super, et ça, je leur rends hommage, un acteur, c'est pas une personne qui est payée au mot, quoi. Un acteur, c'est quelqu'un qui existe même dans l'arrière-plan. C'est-à-dire, un bon acteur, c'est qu'on a envie de voir aussi ce qui se passe derrière. Et ça, ils l'ont compris, ils l'ont vécu. Il n'y a pas eu une guerre d'ego en disant, j'ai pas eu mon gros plan, j'aimerais bien avoir un travelling vers moi, non. Tu vois, et ça, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est le sujet. Qui fait que l'ego, on le met dans la poche droite.
Vous allez me l'arrêter, cette marche.
Je salue la France de toutes les couleurs.
Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé.
On a pas mal discuté sur déjà le texte en lui-même. On a eu la chance de travailler avec Nadia et puis Nabil sur le tournage. À réécrire des choses vraiment en direct, selon les sensations qu'on avait, selon l'évolution du film aussi, ce qu'on ressentait, et ensuite dire un discours devant une foule, c'est assez particulier. Et puis on avait aussi quelque chose qui est... On s'était promis de le faire, et je crois qu'on a réussi le pari, c'est le langage de l'époque. Le langage banlieue n'existe pas. C'est un langage assez... pas soutenu, mais c'est des gens qui parlent très bien français, qui s'expriment très bien.
Pas de verlan.
Il n'y avait pas de verlan, le verlan n'existait pas. Et on s'est inspiré de pas mal de documentaires de Lina qu'on avait eu en commun et qu'on nous a fourni. Et c'était, nous en tout cas, c'était un choc. Vraiment, quand on a écouté ces jeunes parler à cette époque, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comme ça,
ils avaient un recul, ils avaient une intelligence.
Ils avaient un recul, une maturité.
C'était
fou.
Mais ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à faire un discours au fur et à mesure d'arriver vers Paris. Ils apprenaient en fait. Ils apprenaient à parler en parlant, entre guillemets, déjà par rapport au discours, avoir cette espèce d'aura. Ils l'ont eu, ils ont découvert ce truc-là au fur et à mesure. Et par rapport aux phrases, par rapport aux trucs, oui, c'est des phrases qui sont. Qu'ils ont cité. Quand Mohamed dit « Je salue la France de toutes les couleurs », c'est ce que Toumi a dit à Montparnasse. Parce que finalement, Toumi n'avait dit que ça à Montparnasse.
D'accord.
Il a dit « Je salue la France de toutes les couleurs ». Quand il parle, quand le personnage de Yazid parle des associations qui se sont recréées dans le mouvement, ça a été. Et puis, vous parlez du discours de l'attente. C'est vrai que le discours de Kera, ce n'est pas du tout un discours qui a été dans la mare. C'est un discours qu'on a réécrit au fur et à mesure parce qu'il fallait, que ça sonne vrai, quoi. Par rapport au personnage, quoi. C'est ça le problème. C'est vrai, ça rentre dans une oreille, ça reste, on est dans l'émotion. Après, moi, je ne veux pas que mon film donne envie de marcher. J'ai envie que mon film, il raconte une histoire, une page oubliée de l'histoire de France. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, en 83 en particulier. Et aussi de se dire, on a vu un vrai film cinématographique qui est parti du cinéma avec Gandhi en 1983, le film de Gandhi d'Attenborough, et qui revient au cinéma 30 ans plus tard en racontant l'histoire de ces gens qui ont été inspirés par un film. Mais c'est avant tout, comme il dit Nader, un objet cinématographique. Après, le fond, il est là. Quelqu'un, l'histoire des maguettes d'un mec qui se relève après une balle en décidant d'organiser un mouvement non violent contre le racisme. Le mouvement politique, il est là. Et faire un film, c'est faire la guerre. Et je pense que si le sujet n'était pas aussi fort que ça, on ne se serait pas battu pour faire le film. Tout l'argent est dans le film. On a tout mis au service du film, quoi.
On va marcher ensemble, on va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là.
Voilà, et on entend finalement Jamel Debbouze, la marche de Nadir Ben Yadir. Ça sort aujourd'hui et vous pouvez aller le voir a priori au Diagonale et au Gaumont.
Cinérama sur Divergence FM.
Et parlons maintenant du cinéma et du téléphone au cinéma avec Caroline Barraud de l'association Brand à Part qui va proposer trois soirées avec trois soirées et trois thématiques. Ce sera le jeudi 28 novembre, donc demain, et puis ensuite le 5 et le 6 décembre.
Pronto sei tu? Pronto sei tu? Io non sento niente. Non sento niente, pronto? Pronto, ti sento molto lontano. Si, ti sento malissimo, pronto?
Bonjour Caroline Barraud.
Oui, bonjour.
Merci d'être sur l'antenne de Divergence FM. Alors vous allez proposer à la Panacée, je l'ai pas indiqué d'ailleurs, ce sera donc à la Panacée à Montpellier, donc trois soirées avec à chaque fois deux films présentant le téléphone. Alors pourquoi ce choix?
Bah, écoutez, d'abord, on doit remercier l'initiative de La Panacée qui, effectivement, a lancé sa première saison autour de cette thématique du téléphone et notamment des conversations qu'ils ont nommées conversations électriques. Le cinéma, il est contemporain du téléphone. Il a toujours été et encore aujourd'hui omniprésent dans l'histoire du cinéma. Alors, il fallait un petit peu lui rendre hommage aussi. On ne pouvait pas, avec trois soirées, évidemment, explorer de manière exhaustive la présence du téléphone dans toute l'histoire du cinéma, puisque effectivement on l'a vu dans le film noir, dans les comédies, on l'a vu dans des films comme l'extrait que vous avez montré de Rossellini, La Voix humaine, avec la belle actrice Anna Magnani. Mais effectivement, on a essayé un petit peu de proposer aux spectateurs de voyager aussi dans des cinématographies différentes, Chine, Iran, Israël, France, Italie et Espagne notamment. Alors, l'important pour nous, c'était de dégager une thématique générale sous la forme d'une question qu'on pose aux spectateurs et au public, qui était de savoir si finalement le téléphone dans le cinéma, tel qu'il était utilisé dans le cinéma, loin d'avoir finalement réussi à atteindre cette utopie qui était réduire les distances entre les individus, mais n'avait pas fait finalement qu'accentuer une forme d'éloignement, d'incompréhension, et puis de cristalliser comme ça tout ce qui existe comme tension, menace, conflit entre les gens, et qui font que finalement, avec cet outil, on est toujours autant séparés les uns des autres qu'avant.
Alors, vous auriez pu utiliser des films. Alors, il y en a des très connus. Il y a notamment Phone Game qui repose sur l'utilisation du téléphone. Il y a aussi Scream, film très connu. En revanche, vous commencez votre première soirée avec The World, Yazanki, donc réalisateur chinois. Mm-hmm. Et puis, alors quand même, Buried de Rodrigo Cortés, qui là, effectivement, c'est l'histoire d'un homme quand même enterré avec son zippo et puis son téléphone.
Oui, mais c'est le summum de finalement d'une espèce de situation presque pas comique, triste, mais comique, où effectivement on a avec soi tous les moyens, enfin le moyen qui nous paraît être le moyen le plus puissant pour ne pas être isolé, pour communiquer, pour finalement avoir le pouvoir sur tout et sur tous. Et puis finalement on se rend compte que cet outil, tout aussi développé technologiquement soit-il, eh bien, ne nous permet pas finalement de communiquer aussi bien que ça, et puis à un moment donné surtout de se sortir d'une situation difficile et délicate. Voilà.
Je ne mens pas, On était tous que des chauffeurs.
Chauffeurs de quoi ?
De camions, tu vois, les camions sur les routes qui transportent du matériel. C'est moi, c'est nous, c'est tout. Je suis pas soldat, juste un chauffeur.
5 millions d'argent.
Quoi ?
5 millions d'argent ce soir, 9h, où toi rester enterré comme un chien.
Qui va me donner 5 millions de dollars ?
Ta famille.
Ma famille n'a pas 5 millions de dollars. Si elle les avait, je serais jamais venu ici.
Alors, ambassade ?
J'en sais rien. Oui, oui. Pardon, Bassin. Oui, laissez-moi sortir et vous donnons les 5 millions. Ouais.
Voilà, donc extrait de Buried, on l'a bien compris. Ce sera en version originale sous-titrée. Ce sera 21h demain et ce sera après donc The World, Yazanki, à 18h. À noter hein, que ces films, alors vous ne projetez pas seulement les films hein, dans l'auditorium de la Panacée, mais vous avez aussi invité eh bien, des personnes qui vont essayer de faire le lien entre les spectateurs et le film.
Exactement, nous avions envie d'une manière assez informelle, mais en tout cas de pouvoir croiser les regards, c'est-à-dire permettre à des personnes de champs différents, d'horizons différents, que ce soit des enseignants de cinéma, des chercheurs en sciences sociales, notamment Rachel Pankhurst qui va être notre invitée demain soir, qui a fait tout un travail avec un groupe de recherche sur les SMS que nous nous transmettons les uns des autres, leur contenu, leur signification, leur sens, et puis également des professionnels du cinéma, des réalisateurs, des producteurs de cinéma qui viendront nous accompagner pour donner leur approche, croiser leur sensibilité, leur vision des films que nous allons présenter au cours de ces trois soirées.
Voilà, donc on n'a pas vraiment le temps de parler des autres soirées, donc la soirée de demain en tout cas, elle est sous-titrée Les Temps Modernes. Ensuite, il y aura un film, ce sera la semaine prochaine, de Jafar Pahani, Ceci n'est pas un film. Pour un seul de mes deux yeux, c'est un documentaire de Avi Moghrabi, avec Avi Moghrabi qui discute avec son fils qui est appelé donc, dans l'armée israélienne. Et puis la dernière soirée, ce seront Les Transports Amoureux, donc avec La Voix Humaine de Roberto Rossellini, et puis deux films restaurés par les archives françaises.
Que cette soirée nous a permis effectivement d'établir un lien avec les archives françaises du film du CNC à Paris, qui nous effectivement disponibilise des films rares, hein, des films anciens, restaurés, dont un court-métrage méconnu quasiment de Sacha Guitry. Donc ce sera une belle soirée avec quelqu'un des archives du film qui viendra aussi nous expliquer un petit peu leur travail autour de ce type de films restaurés.
Merci Caroline Barrault, et puis pour toutes les informations, c'est sur le site de La Panacée.
Voilà, merci.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12, sans rancune.
Voilà, ça c'était un extrait de Monsieur Jo.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Allez, on fait vite avec l'agenda. Ce soir, à 19h40, ce sera au Diagonale. C'est Wajma, une fiancée afghane. C'est une soirée spéciale. C'est un film de Barmak Akram, donc avec de nombreux invités, notamment Youssef Sharifi, producteur et membre de l'association des Afghans de Montpellier. À l'Utopia, ce sera demain à 20h. C'est l'avant-première de Ordono. C'est Thomas Ordono, pardon, qui présente Mouton. Voilà, un film de Gilles Deroux et Marianne Piston. Vendredi 29, c'est au Diagonale à 18h05. C'est avec le Festa Film, le festival du cinéma lusophone et francophone hein, de Montpellier. La Cage Dorée de Ruben Alves. Samedi 30 novembre, c'est encore une soirée Festa Film. C'est Montpellier Journaliste Vos Papiers de Lorraine Lepêtre avec un court-métrage. À l'Utopia, le dimanche 1er décembre à 10h30, c'est 100 000 et une victoire pour le monde. Il y aura des invités qui seront des agriculteurs. Et puis à 20h15, le dimanche 1er décembre encore, c'est Yasmine et Mohamed de Régine Abadia. Ce sera à nouveau au Diagonale. Encore au Diagonale à 13h45, eh bien, on retrouvera Elle de Louis Buñuel. Quelque chose à ajouter ?
Non, un très 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 grand film.
Ouais. Et puis, on termine avec l'Utopia. Lundi 2 décembre, c'est à 20h30. Le film de Happy Chapon, Verazetakul, Tropical Maladie, c'est dans le cadre du cinéma Campus. Et puis, à ne pas oublier, donc, le Festa Film. Ça commence le 28 novembre, ça se termine le 1er décembre. Vous avez toutes les infos, parce que le programme est forcément copieux. Toutes les infos sur festafilm.fr.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. Et puis ensuite, il y a 24 notes secondes avec aujourd'hui...
Marcello Mastroianni.
Ah!
Voilà, je pense que c'est autour de ses musiques, évidemment.
Ouais, ça laisse une grande latitude, hein, quand même, pour les musiques de films. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.